C'était l'intercession. En un mot, intercession, synonyme d'intercession, ce serait quoi? Prier pour le salut de quelqu'un, ouais, plaider la cause. Je dirais, c'est... On avait des exemples de ça. Vous vous souvenez des exemples qu'on a donnés? Abraham qui a plaidé la cause de Lot. Il y avait aussi les quatre hommes, vous savez, qui ont pris le paralytique, qui l'ont déposé devant le Seigneur. Alors, ils ont vraiment plaidé sa cause. Lui, il était incapable, il était impuissant de venir devant le Seigneur. Et ces quatre hommes-là ont eu à cœur de l'amener devant le Seigneur. Et je pense que ça décrit bien ce que c'est que l'intercession. On plaide la cause de quelqu'un, soit qui ne peut pas le faire ou qui a besoin d'aide pour le faire. Il y a plein de personnes qui ont besoin d'être aidées comme ça. Et on est rendu à un neuvième accord. La requête. Alors, la requête, qu'est-ce que c'est? Je dirais que c'est la chose la plus basic, la chose la plus... Quand on dit prière, quand on dit qu'on va prier, généralement, on parle de requête. Hein? On a 8 autres façons, ça c'est la 9e, des façons de prier. Et la requête, c'est simplement demander. Demandez et vous recevrez. Hein? C'est un besoin vital, un besoin pressant. Et puis, on va devant Dieu puis on demande. Dans le Notre Père, il y a une requête en particulier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Qui est-ce qui prie pour du pain ici au Québec? On est dans la surabondance. On a du pain. J'avais des photos que j'ai décidé de ne pas mettre. Des photos de famine. C'est incroyable. Il y a des pays où on meurt littéralement de faim. Et la prière dans notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, devient une nécessité, ça devient quelque chose de vital, c'est une question de vie ou de mort. Si je n'ai pas de pain à manger, je meurs. Alors, il y a peu de personnes qui sont dans cette condition-là aujourd'hui. Nous, quand on prie pour le pain, c'est plutôt pour rendre grâce. Merci Seigneur pour le pain qu'on a en abondance. C'est plus une action de grâce qu'une requête pour avoir du pain. Mais j'aimerais qu'on élargisse un petit peu le besoin vital. Quels sont les besoins vitaux ici au Québec présentement? De quoi est-ce qu'on a besoin? On pourrait dire, si on n'a pas ça, là, notre vie est en danger. TV, HD, 50 pouces, avec iPhone, laptop, iPhone. Est-ce que c'est un besoin vital? Est-ce que c'est une requête? Est-ce qu'il y a des besoins vitaux? Comme? OK, on va arriver à ça, mais je parle de besoins physiques. On va commencer par les besoins physiques. Oui, c'est un besoin, je dirais, plus... émotionnel.
La santé.
La santé physique, oui. Oui. Prier pour l'exercice, c'est plus notre responsabilité, mais on peut, je dirais, ça va dans être en santé, être en forme. Qu'est-ce qu'on a besoin? Si on n'a pas ça, là, est-ce qu'on a besoin de logement? Est-ce qu'on peut vivre au Québec dehors? Non.
Surtout pas en hiver.
Surtout pas en hiver. Besoin d'électricité, chauffage, vêtements? Besoin de vêtements? Transport? Quelqu'un qui n'a pas de transport ici, est-ce qu'il peut vivre? Très difficilement. Hein? Et il faut tailler un bicycle aussi. Comment est-ce qu'on va avoir du pain sur notre table? En travaillant? Besoin de travail? Oui, mais ça, je pense que c'est déjà acquis. Alors, gagner son pain, la sueur de son front, c'est un, je pense, une requête qui est valable. Seigneur, donne-moi l'opportunité, donne-moi la capacité de travailler, que je puisse répondre à ces besoins-là qui sont vitaux. Et c'est mon rôle en tant que chrétien, c'est notre rôle en tant qu'Église. Nous sommes la réponse de Dieu à ces prières-là. La première chose que Dieu veut de son Église, c'est qu'on réponde à ces besoins-là. Qu'on réponde à la prière de ceux qui sont démunis, de ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont pauvres. Il y a la première Église, la toute première Église, hein? Une caractéristique, l'Église vient de naître, un petit bébé. Elle vient de sortir de la... Et qu'est-ce qu'on lit? Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. C'était même pas une... Hein? C'est un réflexe automatique de la nouvelle nature, de la nouvelle Église qui vient de naître. Cette générosité-là, de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, et particulièrement de ceux parmi nous qui sont dans le besoin. Et on lit aussi dans Jacques, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi ça sert? » Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Alors, c'est basique. Il y a des gens qui prient pour des besoins vitaux, nécessaires. Et nous sommes, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, l'image de Dieu. C'est à travers nous que les gens vont voir que Dieu se préoccupe de ceux qui sont dans cette situation-là. Alors, c'est notre responsabilité. Il y a plein d'organismes, hein? Gloire à Dieu. Il y a plein d'organismes qui viennent en aide, qui le font dans notre société. Et c'est un héritage, je pense, judéo-chrétien. Un reflet de ce que Dieu est, de la nature de Dieu, qui est resté dans l'être humain, de prendre soin de ceux qui sont démunis. Et l'Église est un de ces partenaires-là. Et je dirais qu'on devrait être un exemple. Un chef de file. Parce qu'on représente Dieu, le cœur de Dieu dans ce monde. Alors, il y a des besoins physiques. Quelqu'un l'a mentionné tantôt. Tout de suite, dans notre horaire, il y a des besoins émotionnels, des besoins... Qu'est-ce que l'être humain a besoin? Besoin d'amour. Oui, besoin de pardon parce que on ne s'aime pas les uns les autres. Hein? Si Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres », c'est parce qu'en quelque part, on manque. Et des fois, on manque gravement à ce commandement-là. Je pense pas qu'il y ait personne qui soit mort de faim au Québec, à ma connaissance. Ça sera passé dans les journaux, je pense. Mais je pense qu'il y en a qui meurent d'amour. Et il y en a qui tuent par amour. Il y a des procès en cours, hein? Il y en a qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'amour. Il y en a qui tuent parce qu'ils n'ont pas d'amour. Ils sont vraiment blessés. Et ça, c'est un besoin fondamental. On a besoin d'aimer et d'être aimé. Si nous n'avons pas ça, nous mourrons. Et ma question ce matin, y a-tu quelqu'un qui t'aime? Es-tu capable de répondre à ça? Y a-tu quelqu'un en ce monde qui t'aime vraiment, là? Et il y a plusieurs personnes qui cherchent, là. Puis ils trouvent pas. Ils sont tout seuls, ils sont abandonnés, ils sont rejetés peut-être. Et puis il y a personne qui les aime. Ils sont pas capables de répondre oui à cette question-là, je dirais fondamentale, hein. Et on a besoin de valeur, on a besoin de considération, on a besoin d'un endroit où on est estimé, où, hein. Et si on ne trouve pas ça, on meurt intérieurement, émotionnellement, on peut mourir. Et dans notre société qui manque d'amour, la solution c'est apprendre à pardonner et à demander pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça c'est la réponse au manque d'amour, au manque d'estime, au manque de considération qu'il y a dans notre société. Alors, il y a une famine, il y a des blessures insupportables, il y a des besoins à combler, il y a des guérisons qui ont besoin d'être faites, il y a des délivrances qui ont besoin d'être faites dans chaque famille, dans chaque foyer probablement. Et quel est le plus grand besoin spirituel de l'être humain? Premier commandement de Dieu, la parole de Dieu a dit? Non. C'est l'autre. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son... Ça, c'est le plus grand commandement. Donc, le plus grand besoin de l'être humain, c'est? Aimer Dieu. Le plus grand besoin. Le plus grand manquement de l'être humain. Tuer, c'est quelque chose. Adultère, c'est quelque chose. Voler, c'est quelque chose. Mais ne pas aimer Dieu, ça, c'est le top. Que Dieu ne soit pas en premier dans ma vie. Ça, c'est le top du péché. Et imaginez la famine qu'il y a au Québec. On ne le réalise pas, hein? On nage là-dedans tous les jours. Mais où est la soif de Dieu? Où est l'intérêt pour Jésus-Christ, les choses spirituelles? Alors, il y a plein d'organismes qui peuvent aider, je pourrais dire, émotionnellement, psychologiquement, ils font beaucoup de bien. Mais il y a seulement l'Église qui a le remède spirituel, le remède profond. Et qui a la responsabilité de prendre soin de ces personnes qui sont en manque d'amour et en manque de valeur, hein? Qui va apporter le respect pour les personnes autour de nous? C'est l'Église. Parce que l'Église, c'est le reflet de Dieu. Si les gens veulent connaître Dieu, ils regardent l'Église. Puis ils disent, c'est ça Dieu. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Dieu n'a pas d'autre plan que son Église. Et c'est à travers son Église qu'il répand le message du pardon, le message de salut, de délivrance, de guérison. Nous avons la solution à cette souffrance-là, qui est un besoin criant au Québec, bien plus que le besoin de pain, puis les besoins, je pourrais dire, physiques, ordinaires. On est le portrait de l'amour de Dieu, hein, vous connaissez. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, ça commence ici. Lorsque quelqu'un vient parmi nous, vient nous visiter, vient s'asseoir au milieu de nous, il va sentir, il va percevoir cet amour-là qu'on a pour Dieu et qu'on a les uns pour les autres et qui peut se servir, hein? Peut venir ici, peut être considéré, avoir du respect. On va prendre soin de lui à tous les niveaux. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Ça, c'est quelque chose qui me... J'en reviens pas. C'est Jésus qui parle, hein? Afin que l'amour dont tu m'as aimé, est-ce qu'on a une idée de la grandeur de l'amour que le Père a pour son Fils Jésus? Un petit peu. L'amour que le Père a pour son Fils, cet amour-là dont il a aimé son Fils, qu'est-ce qu'il dit qu'il fait avec? Soit en eux. Que l'amour de Dieu pour son Fils soit en nous, dans chacun de nous. C'est quelque chose. Quelqu'un manque d'amour? Quelqu'un a besoin d'amour? On a tous besoin. C'est vital. Si je ne suis pas aimé, je meurs. S'il n'y a pas personne qui m'aime, je meurs. Intérieurement, émotionnellement, psychologiquement, socialement, etc., etc. Et où est-ce que je vais me brancher Si j'essaie de me brancher sur les autres, je peux être déçu. Hein? Il n'y a pas personne qui peut m'aimer comme j'en ai besoin. Il n'y a pas un être humain sur terre qui peut m'aimer comme j'en ai besoin. Et je dois me brancher à la source. Et une fois que j'ai cet amour-là de Dieu, que j'ai compris, que j'ai saisi l'amour de Dieu, je vais être comme un vase qui est plein, qui va déborder sur les autres, au lieu d'être un vase vide qui essaie de... Hein, des sangsues qui sont collées les uns sur les autres pour essayer d'extirper de l'amour. Alors, ça c'est la réalité. Il y a beaucoup de manquements, il y a beaucoup de besoins de ce côté-là. Quel est ton plus grand besoin vital, si je te pose la question? C'est quoi maintenant, là? Quel est ton plus grand besoin vital? Soit physique, ou émotionnel, ou spirituel. C'est quoi la chose que tu as le plus besoin?
La nourriture spirituelle.
Oui, hein? D'être nourri spirituellement. C'est bon, ça, parce que c'est une faim, hein? C'est une soif. Mon âme a soif de Dieu. Hein, je veux connaître Dieu. On a besoin d'une faim spirituelle. Je l'étendrai au Québec en entier. On a soif, on a besoin d'avoir soif de Dieu, de connaître Dieu. Mais toi, ton besoin en ce moment, c'est quoi? Réponds pour toi-même. Et ça, c'est ta requête. Ça, c'est une requête qui est valable, que Dieu désire entendre et que Dieu désire répondre. Dieu désire répondre à ta requête, mon frère, ma sœur. Parce que c'est un besoin essentiel, c'est un besoin vital. Et ton papa, il sait ce dont tu as besoin. Demande-lui, puis lève-toi avec l'assurance que ton papa a entendu ta prière et que la réponse est en route. Crois-tu ça? OK. On va faire comme si vous ne le croyez pas. OK? Il y a des promesses incroyables. Incroyables. On connaît bien Matthieu. Demandez et vous, on vous donnera. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire?
Demandez.
Cherchez et vous. Frappez, on vous ouvrira. Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et on ouvrira à celui qui frappe. Qu'est-ce que ça dit, ça? Qu'est-ce que ça dit? Demande! Demande! La requête! Demande-le! En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Quoi que ce soit, mais, c'est un mais. Oh, il y en a des mais, on ne regardera pas tout de suite. Mais. Demandez quoi que ce soit. Si deux s'accordent ensemble pour demander quoi que ce soit, ça va leur être donné par mon Père. On a-t-il assez? Non. Cette vue, les disciples furent dans l'admiration et dirent, comment ce figuier a-t-il séché en un instant? Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « ôte-toi de là puis jette-toi dans la mer », cela se ferait tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » C'est pas Michel qui dit ça, là. Qui a dit ça? Tout ce que tu vas demander avec foi, Michel, puis maintenant, mets ton nom, tout ce que tu demandes avec foi par la prière, tu vas le recevoir. Parole de Dieu. Quelque chose, non? Encore? Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. » C'est pourquoi je dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, cela vous sera accordé. Est-ce que Dieu répond à la prière? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais. il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. On les a-tu, les promesses? Hein? L'exaucement de la prière est directement proportionnel à la demande que je fais avec foi. Si je demande rien, j'obtiens rien. Si je demande avec foi, je l'obtiens. C'est directement proportionnel à la demande qui est faite avec foi. Mont-Royal, déplace-toi puis jette-toi dans le même. Il me semble que les Québécois, ça ferait comme un réveil. Dans le fleuve, peut-être l'inondation. Qu'est-ce que Jésus... Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Hein? Métaphore, hein? Il y a une métaphore. Métaphore. Il y a une métaphore de foi. On part avec un grain de sainteté. Puis, ce grain-là grossit. C'est bon. Hein? Est-ce qu'on a besoin de se rappeler les promesses que Dieu il a frappé fort, là? Hein? Il voulait vraiment provoquer ses disciples avec cette parole-là. Il voulait les surprendre. Ben voyons, Seigneur, déplacez le mont Sion à Jérusalem, ça a-tu du bon sens? Alors, est-ce que Dieu m'exauce toujours? La réponse est oui. Je suis obligé de dire oui. Dieu exauce toujours la prière de la foi. Faut que je parte avec ça. Jésus a dit, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Tout ce qu'il demandait, l'obtenait. Et vous savez, les disciples, quand ils sont allés chasser les démons puis faire des miracles, quand ils sont revenus, qu'est-ce que Jésus leur a dit? C'est peut-être bretelle, hein? Ne vous réjouissez pas de toute la puissance que vous avez, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit. Vous ne méritez pas. Ce pouvoir-là n'est pas en vous-même. Ce pouvoir-là, il est en Dieu. C'est Dieu qui a le pouvoir. Alors, ne t'attribue pas la puissance, cette puissance-là de cette promesse-là. Et c'est malheureux parce que lorsqu'on fait ça, on inverse les rôles. Si je prends cette promesse-là, que Dieu répond à la prière, et je me mets à exiger que Dieu réponde à ma prière, je viens d'inverser les rôles. Je viens de me mettre à la place de Dieu, puis Dieu devient mon serviteur, celui qui doit obéir à mes ordres. Et yark! Ce que ça fait, c'est que si Dieu répond à ma prière comme ça, je deviens terriblement orgueilleux ou je deviens terriblement pitoyable, condamnable. Qu'est-ce que je fais de mal qui fait que Dieu ne répond pas à ma prière? Alors, inversons pas les rôles. La promesse est de Dieu, la puissance est en Dieu. C'est Dieu qui exauce nos prières. C'est lui le boss. Et quand je dépose ma prière à Dieu, je lui fais confiance. Je m'en remets à lui. C'est lui qui a la réponse. Mais dans la réalité, ça c'est le principe. On l'a vu que Dieu répond à la prière de la foi, à tout ce qu'on demande. Je ne peux pas négocier ça. C'est dans le contrat. Demandez et vous recevrez. Mais je ne prie pas toujours. Je sais, vous avez toutes les mains en arrière, là. Mais je veux insister sur des fois, c'est trop facile de passer aux excuses et de douter de la puissance de Dieu, de douter que Dieu répond au miracle. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. La prochaine fois, on verra quelles sont les conditions qui font que Dieu exauce les prières, parce qu'il y a des conditions. Hein? Et la réalité, c'est que je prie pas toujours avec cette foi-là. Je prie pas assez souvent. Et je prie avec trop peu de foi. Hein? Juste quelques exemples. Des obstacles que je vois dans ma propre vie, puis que je vois dans les autres personnes après toutes ces années. Qu'est-ce qui m'empêche de prier avec foi? Qu'est-ce qui m'empêche de croire aux promesses du Seigneur? Qu'est-ce qui empêche mes prières d'être efficaces? Pourquoi est-ce que je ne vois pas les fruits, les résultats tels que promis? Oui, mais pourquoi? Et je vous propose quelque chose à réfléchir. Ça, c'est dans Luc 11, au début, il donne de notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, comme on vient de voir, pardonne-nous nos offenses. Et un petit peu après, il donne un commentaire sur le Notre Père. Il donne une parabole ou une histoire qui raconte. Et je pense que ça nous donne un indice qui nous met sur la piste de savoir pourquoi est-ce que les disciples, pourquoi est-ce que nous ne prions pas cette prière de foi assez. C'est pas qu'on le fait pas, mais assez et assez souvent. Il leur dit encore, lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants sont couchés, je ne puis pas me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Quelle est le message que Jésus envoie à ses disciples avec cette histoire-là. Mais qu'est-ce que Jésus... on est sur une bonne traque. Est-ce que Dieu est comme ça?
Non.
Dieu est comment? Exactement le contraire de ça. C'est comme une parabole à l'inverse. Si votre ami, là, supposé ami, il va vous donner ce que vous avez besoin... À contre-cœur, je pourrais dire, hein? Parce qu'il est forcé, là, vous l'agacez, vous l'énervez, fait que je m'en débarrasse, il m'a donné ses trois pains, puis il m'a allé me coucher. Ça, c'est la motivation, comme tu dis, qui est humaine, hein, on pourrait dire, une amitié humaine. Mais il dit, le point de Jésus, c'est, si votre ami, avec des mauvais motifs, il donne... Finit par donner son pain, combien à plus forte raison votre Père, qui vous aime, va combler, il désire combler ce besoin-là, alors venez frapper à la porte. Hein? Dieu n'est pas comme cet ami-là qui, bon, on a peur de le déranger avec nos requêtes. Dieu n'est pas comme ça. Hein? C'est ça le point. Dieu n'est pas comme cet ami importun. Venez, demandez, apportez vos requêtes au Seigneur et il désire. Lui, la porte est ouverte, les bras sont grands ouverts, il vous attend. Puis cette requête-là, je vous ai demandé tantôt de trouver là, une requête brûlante, importante. Pourquoi ne pas l'apporter au Seigneur? Et tout de suite après, là, il continue un autre exemple. Et moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. On connaît la... Alors, le commentaire, tout de suite après le Notre Père aussi. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, va lui donner une pierre. S'il demande du poisson, est-ce que je vais lui donner un serpent au lieu d'un poisson? S'il demande un œuf, vais-tu lui donner un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint, le top, à ceux qui les lui demandent? Pourquoi est-ce que Jésus donne cette histoire-là, encore une fois, à ses disciples? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que Jésus a voulu dire à ses disciples avec ces deux histoires-là? Il était où leur problème? Manque d'amour de la part de? Ouais. Et pourquoi je ne veux pas à Dieu? C'est ça le problème. Parce qu'on a une fausse perception, fausse sensation de qui est Dieu. Oui, aussi, je dirais l'autre côté. Mais premièrement, l'idée que j'ai de Dieu. Pourquoi est-ce que je ne vais pas voir Dieu avec mes requêtes? Il y a quelque chose là. Quelque chose là. Mais manque de foi parce que j'ai pas le bon Dieu. Ou l'idée que j'avais de Dieu était fausse et ça me tient loin de lui. Les disciples avaient une idée de Dieu qui était croche, qui était fausse, et Jésus leur donne ces métaphores-là, ces paraboles-là, pour leur dire, changez votre Dieu, vous n'avez pas le bon Dieu. Votre perception de Dieu qui vient de l'Ancien Testament, il manque de quoi, hein? Elle est faussée. Dieu n'est pas comme ce voisin-là qu'on va déranger, qui n'est pas intéressé, qui dit « débrouille-toi toi-même », qui est insensible à ce que tu vis, à tes besoins. Il n'est pas comme un père qui serait dur, sans cœur, qui donne des mauvaises choses à ses enfants. Dieu n'est pas comme ça. Tous les humains, Dieu est dans son laboratoire, hein, c'est quelque chose que j'amène souvent. Dieu est comme dans son laboratoire, fait des tests sur les humains, puis spécialement les chrétiens. Il veut nous tester, voir si on est des vrais. Hein? Puis là, il tire notre élastique pour voir si on a de l'endurance, si on va être capable de passer à travers l'épreuve qu'il nous fait passer. Et puis, waouh, oui, OK, Seigneur, je persévère, je continue à avoir confiance en toi. Et là, il lâche l'élastique? Non. Il étire encore l'élastique. OK, Seigneur, je continue à avoir confiance en toi. Puis il étire encore l'élastique, puis il étire, puis à un moment donné, paf! L'élastique, il pète. Puis t'es pas bon. T'es pas un bon. Un chrétien charnel, chrétien rétrograde. Il a pas toffé. C'est ça l'image de Dieu? On dit non, mais je peux vous dire qu'il y en a plusieurs. On sait tout dans notre tête, on a toute la théologie bien correcte, là. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est plein de compassion. Mais je vous dis, quand on descend dans le cœur, c'est pas ça. Ce peuple a une bonne idée de moi, m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le problème, c'est que mon cœur est éloigné de Dieu et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas prier. J'ai une crotte sur le cœur. Contre Dieu, en quelque part, qui fait que j'ai beaucoup de la difficulté à lui faire confiance. La façon dont il m'a traité, la façon dont ce qui m'arrive dans ma vie, on ne dit pas ça consciemment, là. Hein? Dans notre tête, là, tout est la vérité, là, on la connaît, sur qui est Dieu. Quelqu'un appelait ça de la genéologie. De la théologie, de la genéologie. La généalogie, c'est quand je vais me présenter devant mon Père dans la prière, puis je suis capable d'avoir cette relation intime avec mon Papa Céleste. Alors, je vous lance la question cette semaine. Pourquoi ta perception de Dieu? Pourquoi est-ce que tu vas pas, t'as pas le goût d'aller voir Dieu? T'as pas prié de la semaine? Comment se fait ça? C'est pas normal, ça. C'est pas normal. T'as quelque chose contre Dieu? Là, je suis plus directif, peut-être, là. En quelque part, t'as quelque chose contre Dieu? Qui fait que tu crois pas, t'as pas confiance. Que si tu lui exposes tes besoins encore, ça va changer quelque chose. Il t'écoute pas. Il est pas intéressé, t'es ben trop. Hein? Ben trop aussi, ben trop, t'as pas important à ses yeux. C'est quoi? C'est quoi ton problème? C'est quoi mon problème? Pourquoi est-ce que je prie pas avec cette foi-là, avec cette ferveur-là, avec cette conviction-là, cette assurance-là, que Dieu m'écoute. Le bon Dieu, hein? C'est celui qui nous attend les bras grands ouverts. C'est celui qui désire avoir une communion intime avec toi cette semaine. Ça, c'est le bon. Il est là, il attend. Il n'y a pas quelque chose qu'il aime plus dans ce monde qu'avoir ce temps-là avec toi, avec moi, et qu'on partage nos requêtes, parce que lui aussi a des requêtes. Lui aussi me demande des choses. Et il veut qu'on partage, qu'on ait ses mêmes désirs, ses mêmes... Dieu, il veut entendre ma requête. Alors, c'est possible qu'on suit... On suit Dieu, mais de loin. On connaît Dieu, on connaît sa parole, c'est écrit dans sa parole. Mais Jésus dans ma vie, là, il est loin, loin, loin. Là. Je le suis, je suis dans sa voie, je suis chrétien, puis je crois en Jésus. Et je lis sa parole. Hein? Je connais des choses sur Dieu. Mais le Seigneur, il veut qu'on marche avec lui. Qu'on ne soit pas éloigné de lui, mais qu'on soit près de lui. Et ça fonctionne partout. Ça fonctionne au travail, ça fonctionne à la maison. Je dirais que la prière de la foi... Elle est directement proportionnelle à l'intimité, la communion que j'ai avec Dieu. Puis on a le meilleur exemple, c'est Jésus. La prière, cette prière de foi que Dieu répond toujours. Tout ce que vous demanderez, quoi que ce soit que vous demanderez, en mon nom, je le ferai. Ça, c'est directement proportionnel à l'intimité, la communion que j'ai avec mon Père et avec Jésus. Ça, c'est la prière de la foi à laquelle Dieu va répondre absolument, d'une façon absolue. Et il nous lance une invitation. Je ne sais pas où est-ce que tu es rendu. Je ne sais pas si ce que je dis, ça, où est-ce que tu te trouves là. C'est quoi ta distance? Est-ce que tu marches vraiment avec Jésus en communion intime pour dire « wow » ou bien tu le suis de loin? Il est là, en quelque part, derrière les nuages, mais je n'ai pas cette intimité avec lui. Il y a une invitation, hein? Vous connaissez cette histoire-là? L'enfant prodigue était loin. Il avait d'autres préoccupations que son père, si on peut dire. Hein, l'intimité avec son père, il fuyait la maison. Il fuyait sa famille. Il était loin de son père. Puis là, il est entré en lui-même et il a dit, « Oups, je pense que je n'ai pas une bonne perception de mon père. » Il dit, « Je vais retourner vers mon père parce que, dans le fin fond, il savait que son père l'aimait. » Et comment il était accueilli? Les bras grands ouverts. Lui, il avait la bonne perception de son père. Il avait la bonne perception de Dieu. C'est ça que Jésus a voulu changer dans ses disciples. Changez votre perception de Dieu. Changez la façon dont vous voyez Dieu. Puis allez dans ses bras. Allez vous jeter dans ses bras. Vous allez voir comment on est bien. Et on verra dans... Bon, je suis pas là la semaine prochaine ni l'autre. Dans 3 semaines, on va continuer la requête et on va voir quelles sont les conditions qui vont faire que Dieu répond à la prière. D'autres conditions. La première qu'on doit regarder, c'est quoi ma relation intime avec Dieu? C'est quoi la perception que j'ai de Dieu? Pourquoi est-ce que je suis capable de vivre sans Dieu pendant une semaine sans avoir ce contact intime avec le Seigneur? Comment ça se fait? Pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai quelque chose en quelque part qui m'empêche d'avoir la foi en Dieu. Et si mon enfant me demande un serpent, j'inverse la parabole ou la métaphore. Si mon enfant vient me demander un serpent, qu'est-ce que je vais lui demander? Est-ce que je vais répondre? Je suis obligé de répondre à sa requête? S'il me demande un scorpion... Alors, il y a des raisons qui font que Dieu ne répond pas à certaines prières. Et c'est pour notre bien, n'est-ce pas? Alors, on verra ça c'est à suivre. Mais aujourd'hui, cette semaine, maintenant, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de chacun pour soi. On va dans la présence de Dieu. Puis, regardez la distance. Quelle est la distance qu'il y a entre vous et Dieu? OK? Juste cet exercice-là. Puis, s'il y a quelque chose qui... Oui, Jean-François? Mais, en même temps, je dirais qu'il nous laisse. Hein, il a pas couru après l'enfant prodigue, là. Il a pas tordu le bras. Viens dans la maison parce que ça va te faire mal. Et à un moment donné, tu as besoin de récolter ce que tu sèmes, ce que tu... Malheureusement, faut que tu te ramasses avec les pourceaux avant de crier à Dieu. Oui, Cheryl. On peut vivre sans Dieu assez bien. Et c'est le malheur de la société occidentale, comme tu dis. On a été bénis parce qu'on a suivi des principes judéo-chrétiens. Puis on récolte ça, mais de plus en plus qu'on se paganise, que Dieu n'est plus dans le portrait, qu'on est de plus en plus révolté contre Dieu. Nous aussi, ça va être notre tour bientôt. Puis ce sont les pays du tiers-monde qui, eux, découvrent la prière, la requête, et un Dieu qui va répondre à leur requête. Ben oui, d'exploser. Ouais. Ouais. Alors, j'ai mis les photos. Avec ce que Cheryl dit. Ça, c'est la réalité de certaines personnes, des millions de personnes là, aujourd'hui sur la planète. Nos jeunes, ils ont planté des croix. Là, c'est à combien de morts de faim par jour? 222 personnes meurent de faim à l'heure. Demi-heure?
C'est de moins de 5 ans.
Des enfants de moins de 5 ans. Tu sais, je dis ça, là, mais je le crois pas, là. Tu crois pas ça? OK. Moi, je pense qu'on devrait aller devant le Seigneur avec ce fardeau-là, parce que nous sommes la réponse. Hein? Peut-être pas toute la réponse, mais une réponse. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande à nous, maintenant? s'il y a des requêtes qu'on peut lui adresser en ce moment. Allons dans la prière. Si quelqu'un a à cœur de prier pour Seigneur, ce qui me vient, c'est le nouveau président de Haïti, Michel. J'ai retenu juste Michel. Et tu nous as demandé de prier pour ceux qui sont en position d'autorité. Alors, Père Céleste, c'est notre requête. On se met ensemble pour qu'il soit la personne dans tes mains pour apporter l'espoir et apporter, Seigneur, des solutions valables à ce pays qui est dans la détresse. Il y a bien de nos frères et sœurs qui sont ici parmi nous, qui peuvent en parler. On se joint à eux, Seigneur, te demander de leur donner le pain quotidien.